occupée à la fois au moment de l'acquisition de ses titres, mais tout au long du process et de la vie de Natixis depuis décembre 2006. On ne leur avait pas raconté la réalité des risques qu'ils prenaient et surtout de l'évolution catastrophique que prenait Natixis. Que ce soit en 2007 ou 2008, les dirigeants n'ont eu de cesse que de rassurer. Comme par hasard, Natixis n'était pas touché par les problèmes, ces fameux subprimes. C'était assez surprenant de raconter des choses pareilles. Et un autre élément qui me choque, c'est quand ils veulent être défendus, ils ont en face d'eux, que ce soit dans les réseaux des caisses d'épargne ou des banques populaires, des discours incroyables pour justifier qu'on ne leur donne pas des justificatifs. Parce que quand vous allez dans une action en justice, vous devez apporter un certain nombre de justificatifs. Et on leur dit en face que la société qui s'occupe de l'archivage a fait faillite. Moi-même, j'ai écrit à M. Pérol il y a quelques mois pour lui signaler ce dysfonctionnement.
M. Pérol, donc, quel est son rôle au sein du groupe BPCE ?
M. Pérol a tous les pouvoirs. S'il a envie de résoudre cette situation de ses actionnaires individuels et finalement de ses clients, il n'a qu'à appuyer sur un bouton et trouver une solution. Il suffit qu'il le décide. Mais je pense que tant qu'il n'y aura pas une conscience au niveau des politiques... et d'ailleurs, je suis sidéré du silence de tous les politiques, de tous ces élus du peuple... qui finalement écrase ce problème. Ça concerne pourtant des millions de Français qui ont investi là-dedans et personne n'en parle. On n'a qu'une envie, c'est que tout s'écrase.
Alors maintenant, comment s'en sortir de tout ça ? Comment avoir les conseils, la conclusion et les perspectives d'avenir ? Nous avons recours au professeur Lordon, Frédéric Lordon, chercheur au CNRS et économiste hérétique.
Cette histoire de petit porteur floué, c'est un grand classique. D'abord, le petit porteur, c'est une figure historique de la finance. Et elle en a accompagné tout le développement. Et le petit porteur floué est un personnage récurrent, qui surgit de nouveau sur la scène de l'histoire, à la même fréquence que les crises financières se reproduisent, c'est-à-dire par les temps qui courent de plus en plus souvent. Bon. Alors, en même temps, il faut bien voir que la figure du petit porteur floué ne dessine pas une population homogène. Il y en a de différentes sortes et il va falloir faire des différences pour pas être trop injuste. Par exemple, prenez les ruinés de Madoff ou de Stanford, qui sont les deux méga arnaques de la dernière crise financière. Les ruinés de Madoff, au risque de paraître avoir le cœur sec comme une pierre, moi, je dois vous dire que, franchement, ils ne me tirent pas un sanglot. Mais vraiment plus rien du tout, mais même pas une larmichette. Ces gens-là me semblent être les types les plus représentatifs de ce qu'on pourrait appeler la culture du capitalisme financiarisé. Parce que c'est bien ça qu'il faut voir. Et en fait, c'est là-dessus que je voudrais insister. C'est que le capitalisme financiarisé est une structure économique, avec ses stratifications sociales, etc. Mais il a, pour parler facilement, il a aussi sa culture propre, hein, avec ses images, ses fantasmes, ses chaînes de radio, de télé, donc son appareil culturel propre. Alors, il faut bien dire que les franges de la population qui ont le plus trempé dans cette culture-là et qui sont le plus impliqués dans l'investissement financier, notamment dans l'investissement boursier, sont des gens qui sont totalement imprégnés par l'esprit de cupidité du temps, quoi. Enfin, je veux dire, donc ces gens-là qui viennent chialer parce qu'ils ont tout perdu, faisaient bravo, bravo et applaudissaient des deux mains lorsque Madoff venait leur promettre des rendements garantis à l'année de 10 à 15%. Et c'est ça l'esprit de cupidité, c'est l'idée que on peut s'enrichir, comme disait tonton Mitterrand, en dormant, et dans des proportions qui permettront alors de prendre la voie rapide et de doubler la rémunération du travail alors, mais dans des proportions absolument gigantesques. Donc il y a un ethos qui est complètement imprégné de cette cupidité, mais mélangé à des formes de crédulité absolument naïves, moi, qui me font penser à celles de ces lecteurs un peu âgés du Télé 7 jours d'il y a 20 ou 30 ans. Vous savez, qui remplissaient scrupuleusement leur bon de commande pour acheter la pierre du Nord avec le portrait de Daniel Gilbert en incrustation, dans l'espoir que ça allait les guérir de leurs ongles incarnés ou de leurs hémorroïdes. Et c'était toujours la même cruelle expérience de la déception recommencée. Ça ne marche pas, je veux dire. Eh ben, 10 à 15% l'an garanti en bourse, ça ne marche pas non plus. Pareil. Bon, donc, moi, je me demande, à la fin des fins, si